Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés.
Démosthène. Plaidoyer politique. Contre Midias. Ah, ne me livrez pas, moi non plus, à cet homme-là, athénien. Voyez plutôt. Tout à l'heure, quand le tribunal aura levé séance.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. En 1926, Georges Clemenceau, alors âgé de 84 ans, rédigea, pour l'offrir à Marguerite Baldensperger, son ultime amour, un essai consacré à Démosthène. Après d'autres, il donnait à Démosthène la figure du dernier grand homme d'Athènes avant que ne disparût sa liberté du fait des conquêtes de Philippe II, roi de Macédoine, et de l'Empire créé par le fils de celui-ci, Alexandre le Grand. Ce portrait, peint avec une verve juvénile, se fondait sur une assimilation historique implicite mais limpide avec lui-même, pourfendeur des défaitistes de 1917. Entendez au premier rang Joseph Caillaux, coupable aux yeux du tigre d'avoir songé à accepter des concessions envers l'envahisseur allemand, notamment en 1917. Et Clemenceau, de stigmatiser la faiblesse du peuple athénien, n'apportant au courage du leader qu'un soutien insuffisant et intermittent. Il ajoutait, en conclusion de son livre, « Quand Denis d'Halicarnasse nous donne Démosthène pour le plus grand orateur de tous les temps, je me permets de trouver la louange insuffisante, puisque la parole ne peut être que vain bruit sans l'action. Au sens achevé du mot, Démosthène fut un homme, c'est assez. À y bien regarder, c'est beaucoup. » Voilà bien qui provoque l'envie de considérer de plus près si cet enthousiasme est fondé et surtout ce qu'a pu être naguère et ce que peut être aujourd'hui l'actualité de cet homme-là, entre les complexités de sa trace et les déformations de tel ou tel mythe, positif ou négatif, qui accompagne de longue main sa mémoire. Patrice Brun, professeur à l'université de Bordeaux-Montaigne, qui l'a naguère présidé, s'apprête à en proposer une importante biographie. Et il va nous offrir ce matin la primeur de ses analyses et de ses réflexions. Et pour commencer, Jacqueline de Romilly, historienne renommée de la Grèce antique, qui en 1952 décrivait une journée ordinaire de l'Assemblée des citoyens à Athènes.
Les séances avaient lieu dès l'aurore, au chant du coq, comme dit Aristophane. Parfois, les gens manquaient un peu de zèle. Une des comédies d'Aristophane, les Acarniens, commence par la parodie d'une séance. Le héros, au matin, trouve la pnyx vide. Nos gens, devinent-ils, bavardent sur l'agora. On se servait même parfois d'une corde couverte de vermillon pour obliger les paresseux à se diriger vers la pnyx. D'ailleurs, beaucoup étaient retenus par le souci de leurs affaires. Les paysans, et cela s'est marqué dans la politique sociale comme dans la politique de guerre, venaient moins que les citadins. Plus tard, après la guerre, on dut instituer une indemnité. Mais à l'époque de Périclès, rien de tel. Nul n'aurait eu, rappelle Aristophane, l'audace de vouloir gérer les affaires de la cité à prix d'argent. Chacun arrivait portant de quoi boire dans une petite outre avec du pain sec, deux oignons et trois olives. Et encore. Bientôt, tout ce monde était là, des gens de toute espèce. C'est Xénophon qui nous les énumère. Foulons et cordonniers, maçons, ouvriers sur métaux, laboureurs, revendeurs, colporteurs, brocanteurs, etc. Un sacrifice préliminaire avait lieu. Le héros prononçait une prière publique, appelant la malédiction des dieux contre quiconque trahirait les intérêts du pays. Tous ces gens de toutes sortes formaient dès lors ces citoyens d'Athènes, auquel tous les discours que nous avons conservés s'adressent. La séance était commencée. Qui veut prendre la parole ? Tis agoreïn bouletaï. La formule du héros est célèbre et l'on peut à peine s'empêcher de penser au jour dramatique où Démosthène raconte que cet appel restait sans réponse. Qui veut prendre la parole ? N'importe qui pouvait le faire, venir à la tribune, revêtir la couronne de myrte, puis donner son avis, proposer même des amendements, des modifications, des contre-projets. En fait, c'était surtout les principaux hommes politiques qui intervenaient, ceux que l'on appelle toujours en grec, pour cette raison, les orateurs.
Patrice Brun, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai donné à entendre, pour commencer, des propos d'une helléniste célèbre, Jacqueline de Romilly, des propos qui sont anciens déjà de plus de 60 ans, puisqu'ils étaient tenus à l'heure de culture française, sur la radio d'État. Et cette description, en fait, elle est plutôt consacrée au 5e siècle qu'au 4e siècle.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs un passage assez étonnant où elle dit, à l'époque de Périclès, on ne donnait pas d'argent. D'ailleurs, nul n'aurait pensé demander de l'argent. La réalité est tout autre. C'est qu'à l'époque de Périclès, il y avait à peu près 50 000 citoyens. Plus tard, si on parle à l'époque de Démosthène, il n'y a plus que 30 000. Et atteindre le quorum nécessaire pour qu'une décision fût valable, c'est-à-dire 6 000 citoyens, il devenait nécessaire de donner une petite rétribution extrêmement modeste qui permettait éventuellement à un ouvrier ou un salarié ou un artisan de ne pas perdre sa journée de travail et donc de venir à l'Assemblée. Il ne faudrait pas imaginer qu'à l'époque de Périclès, Athènes était totalement sans souci d'argent, qu'on ne voulait pas toucher l'argent de l'État. C'est une vision, je dirais, peut-être un peu idéalisée de ce que fut l'Athènes de Périclès.
On peut dire, sans être désobligeant pour la belle mémoire de Jacqueline de Romilly, qui a fait aimer la civilisation grecque à beaucoup de lecteurs, on peut dire qu'elle s'est beaucoup concentrée dans son affection sur le 5e siècle, le siècle de Périclès, plutôt que sur le 4e, celui de Démosthène.
Oui, et je dirais même sur une petite période du 5e siècle, celle, je dirais, qui suit immédiatement les fins des guerres médiques, où commence ensuite, vers 430, la guerre du Péloponnèse.
En fait, Jacqueline de Romilly retrouve la nostalgie qu'un certain nombre d'auteurs ont pu avoir sur l'âge d'or, comme dira plus tard Horace, l'audateur temporis acti, et au fond, l'idée, c'est que c'était mieux avant.
L'idée, c'est tout à fait ça, c'est l'idée que c'était mieux avant, et de fait, pour les Athéniens, c'est vrai que c'était mieux à cette période-là, à l'époque où ils dominaient la mer Égée de toute leur puissance maritime, et où d'ailleurs ils exploitaient de manière positivement éhontée leurs alliés. Donc effectivement, cet âge d'or pour Athènes ne correspond pas forcément à un âge d'or pour l'ensemble de la Grèce, et notamment pour les alliés d'Athènes.
Rappelez-nous ce que c'est que la Pnyx.
Alors la Pnyx, c'est une colline qui est située à vol d'oiseau, environ à 400 mètres de l'Agora, et où se réunissaient les citoyens, parce que l'Agora, à la fin du 6e et au début du 5e siècle, était trop petite pour accueillir les dizaines de milliers de citoyens qui étaient susceptibles de venir aux séances de l'Assemblée. Donc la Pnyx, dégagée de toute construction, permettait donc d'accueillir plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs, ce que ne pouvait plus faire l'Agora.
Alors je voudrais que vous nous aidiez, Patrice Brun, à comprendre la manière dont ce système démocratique pouvait fonctionner de manière en réalité très différente que celles qu'ont connues le XXe et le XXIe siècle, que ce soit le temps de Georges Clemenceau ou le nôtre.
C'était effectivement assez très 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 différent. Souvent on compare la situation des cités grecques antiques à ce qui se passe dans les cantons suisses. De fait, il peut y avoir ce qu'on appelle des votations, qui peuvent être issues du peuple lui-même, ce qui est rarement le cas chez nous.
Mais chez les Suisses, fréquemment, nous avons remarqué la votation récente sur les étrangers. Fermons la parenthèse.
Nul n'a dit que la démocratie était exempte de problèmes, et notamment la démocratie directe. Chacun sait que dans diverses assemblées générales et qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, ce n'est pas là où la parole, je dirais, la plus subtile, la plus modérée prend le pouvoir.
Alors il y a 30 000 du temps de Démosthène, il y a 30 000 citoyens qui s'expriment, mais autour, il y a 400 000 esclaves et métèques, c'est-à-dire les étrangers. Si on ne rappelle pas ça, on ne comprend pas la manière dont tout ça se déroule, comment ça se passe.
À l'époque de Démosthène, on peut dire effectivement qu'il y avait aux alentours de 30 000 citoyens, et puis tous les autres, tous ceux qui n'étaient pas citoyens, dans lesquels on met les femmes, dans lesquels on met les étrangers, dans lesquels on met les esclaves. Un recensement a été opéré aux alentours de des années 310. Il donne effectivement ce chiffre de plus de 400 000 non-citoyens.
Qui travaillent pendant que les citoyens peuvent s'occuper de la cité.
Exactement, mais l'esclavage est une condition de la démocratie. Et c'est ça qui peut nous paraître tout à fait paradoxal, voire totalement contradictoire. En réalité, Athènes a été la cité la plus démocratique, et elle a été aussi la cité qui comptait le plus d'esclaves. Et c'est tout à fait naturel, puisque l'esclave doit être au travail si le citoyen veut s'absenter pour s'occuper des affaires de la cité.
Et d'ailleurs, on peut noter que Démosthène était assez riche parce qu'il a hérité de deux ateliers d'esclaves de son père.
Mais là, de tout ce qu'on entend parler à l'Assemblée, tous, sans exception, font partie des classes aisées. Ça, c'est tout à fait net. Ils ne travaillent pas au sens premier du terme. Ils sont ce que les Romains ensuite ont dit. Ils avaient cet otium, cette capacité à avoir du temps, de loisirs pour s'occuper des affaires de la cité.
Otium, c'est le contraire de négocium.
Exactement. Le négociant, c'est celui qui, précisément, est obligé de travailler pour vivre.
En tout cas, Démosthène ajoutait cette critique envers la Macédoine en disant que c'était un pays dont on ne peut même pas faire venir de bons esclaves. Comment est-ce qu'on prenait les décisions? Ces 30 000 citoyens pouvaient-ils diriger, par le truchement bien sûr de ces orateurs, de ces politiques, s'étaient imposés à leur attention et à leur soutien? Comment Athènes était-elle gouvernée en fait?
On parle de démocratie directe, mais en réalité, il y avait des freins à cette démocratie directe. C'est-à-dire que personne ne pouvait présenter un décret ni proposer une loi, si ce décret ou cette loi n'avait préalablement pas été étudié par le Conseil. La boulet, qui est renouvelée tous les ans, est tirée au sort. Et c'est ce Conseil qui étudiait la possibilité, ou non, de présenter le décret au peuple.
Combien de membres, à peu près, la boulet ?
500. 500, répartis selon tous les dèmes de l'Attique et par tribu. Et ce conseil étudiait donc le projet et décidait si on pouvait ou non le proposer devant le peuple. Donc vous voyez, il y avait une sorte de filtre. Personne ne pouvait arriver comme ça, de but en blanc, monter sur la tribune et dire « je vous propose tel décret ». Non, ça n'était pas possible.
Mais comment choisissait-on les orateurs, les politiques qui pouvaient imposer leur autorité au peuple?
C'est ce que les textes anciens appellent les politeuménoi, ceux qui s'occupent des affaires de la cité. En réalité, ce qu'il fallait, évidemment, c'est d'avoir une voix forte quand on s'adresse à plusieurs milliers de personnes. Et on est à Athènes, c'est-à-dire que dans un peuple, on va dire méditerranéen, où on parle beaucoup, il faut savoir. On a l'exemple d'Isocrate, le rhéteur, qui a renoncé à toute carrière politique parce que sa voix, nous dit-on, était trop fluette. Il ne pouvait pas s'imposer. Il fallait donc une certaine assurance rhétorique. Cette assurance rhétorique, évidemment, pouvait peut-être être innée, mais elle s'encourageait par des leçons auprès de maîtres.
Alors c'est là qu'on en vient très directement à l'histoire de Démosthène lui-même, qui dans ce contexte général que vous venez de décrire, a su, en dépit de dons au début apparemment limités, a su améliorer et affirmer sa capacité oratoire.
Les défauts rédhibitoires ou prétendus tels de Démosthène ont certainement été très très exagérés par nos sources.
Nos sources, c'est-à-dire principalement Plutarque.
Alors Plutarque, et non, on a également Cicéron, nous avons également Quintilien, des Romains. C'est à ce moment-là, on va dire au 1er siècle avant à peu près, que se crée toute la mythologie sur les défauts d'élocution de Démosthène.
Mais on est 3 ou 4 siècles après.
Mais voilà, c'est ça.
À la même distance que pour nous, Montaigne ou Henri III.
Exactement. Donc lorsqu'on dit que, vous savez, vous connaissez, tout le monde connaît le mythe des cailloux dans la bouche. Il bégayait beaucoup.
Il bégayait,
on ne sait pas trop. On ne sait pas trop.
Donc quoi qu'il en soit, Démosthène a des handicaps.
A des handicaps, mais qui ne sont évidemment pas aussi importants qu'on l'imagine. On raconte aussi beaucoup d'histoires sur Démosthène. Et lorsque l'on dit, par exemple, qu'il gravissait également des pentes en marchant, il s'obligeait à réciter des vers. On dit aussi qu'il essayait de parler fort devant les flots de la mer. Toute une histoire d'anecdotes qui ne tiennent évidemment pas parce qu'elles sont extrêmement tardives. Il est possible qu'il n'ait pas été un très très grand orateur de manière innée, mais aucune source contemporaine ne fait écho d'une manière ou d'une autre de défauts qui auraient été rédhibitoires. Et donc ça fait partie, je dirais, d'une certaine mythologie de Démosthène.
On peut observer d'ailleurs qu'au 3e siècle, 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, Lucien, qui est dans son éloge de Démosthène, fait observer avec malice que il est plus facile de parler de Démosthène que d'Homère, car il n'est pas du tout nécessaire de lire son œuvre, étant donné le nombre de clichés et d'anecdotes qui se présentent d'emblée à l'esprit.
Ces anecdotes que j'ai évoquées font partie d'une sorte de mythologie de Démosthène qui a pu être récupérée ensuite de manière intéressée par certains nombres d'écoles philosophiques qui ont pensé qu'effectivement, à force de travail, on pouvait arriver à une très grande qualité rhétorique.
Bon. Quoi qu'il en soit, le commerce qu'il a entretenu avec sa propre parole, avec le logos, est évidemment une partie de sa figure essentielle. Écoutez cet extrait de l'éloge du logos d'Isocrate que vous avez évoqué, grand maître, grand personnage, plus âgé que Démosthène d'ailleurs. Un extrait qui est lu dans l'émission Le Cercle des Médiologues sur France Culture le 28 avril 2002. C'est une émission de Jean-Marc de Biasi avec Régis Debray.
Il y a des esprits qui sont mal disposés à l'égard de l'éloquence et qui blâment ceux qui s'adonnent à la philosophie. Ils prennent une position hostile devant la forme d'activité qui, parmi toutes les ressources de la nature humaine, est à l'origine des biens les plus grands. En effet, de tous nos autres caractères, aucun ne nous distingue des animaux. Nous sommes même inférieurs à beaucoup sous le rapport de la rapidité, de la force, des autres facilités d'action. Mais parce que nous avons reçu le pouvoir de nous convaincre mutuellement et de faire apparaître clairement à nous-mêmes l'objet de nos décisions, non seulement nous nous sommes débarrassés de la vie sauvage, mais nous nous sommes réunis pour construire des villes. Nous avons fixé des lois. Nous avons découvert des arts. Et presque toutes nos inventions, c'est la parole qui nous a permis de les conduire à bonne fin. En résumé, pour caractériser ce pouvoir, nous verrons que rien de ce qui se fait avec intelligence n'existe sans le concours de la parole. La parole est le guide de toutes nos actions comme de toutes nos pensées. On recourt d'autant plus à elle que l'on a plus d'intelligence.
Alors Patrice Brun, ce rôle de la parole dans l'émergence des décisions, ce qui est fondamental dans tout régime, en particulier en démocratie, comment est-ce que ça se passe? Comment l'éloquence sert-elle à faire que le peuple, dans ses comices, fasse tel ou tel choix décisif pour l'histoire de la cité?
Tout à l'heure, nous parlions de l'éloquence, c'est-à-dire de la rhétorique, c'est-à-dire de la capacité oratoire. Mais il est évident que derrière le logos sur lequel cet extrait s'appuie, c'est aussi le discours articulé, le discours convaincant. Et c'est là où, je dirais, pas uniquement la démocratie d'ailleurs, parce qu'on le voit déjà chez Homère, il faut absolument essayer de convaincre. C'est extrêmement grec. Et cette capacité à bien parler, mais aussi à parler intelligemment, est décisive pour la prise de décision. Parce que nous voyons fort bien que les Athéniens sont sensibles à la qualité de l'argumentation. Et je dirais, aux conséquences que la décision va pouvoir amener. On le voit à plusieurs reprises, que ce soit au 5e ou au 4e siècle, on voit les Athéniens très, très impliqués sur le devenir de leurs décisions.
Politique étrangère et politique intérieure?
Absolument, absolument. Même si la plupart des discours que nous avons ressortissent plutôt à la politique extérieure, on voit que chaque orateur essaie de dire ce que vous allez décider maintenant aura une importance essentielle pour l'ensemble de la cité. Et c'est ce à quoi les Athéniens réfléchissent au moment de prendre leurs décisions.
Alors voyons comment Démosthène organise les débuts de sa carrière. Il y a des moments qui nous apparaissent rétrospectivement un peu incertains, en particulier à propos de la grande question des relations entre les riches et les pauvres, qui ne cessent pas de traverser cette histoire d'Athènes.
Et ça traverse aussi Démosthène, qui lui-même est indiscutablement riche. Il a récupéré sa richesse quand il avait été spolié par ses tuteurs.
Premier procès.
Les procès pour recouvrer son héritage. Donc il est riche. Il n'a pas hésité cependant, dans un discours contre Minyas par exemple, qui lui-même est riche, à se faire passer pour pauvre. Il dit à un moment, nous les pauvres, nous n'avons pas les mêmes droits que les riches. Alors que lui-même fait partie de ceux qui sont le plus imposés au niveau fiscalement, puisqu'il fait partie des plus riches. Il y a un rapport avec l'argent de la part de Démosthène qui est assez curieux, puisque dans sa politique, assez nettement dans la première partie de sa vie politique, on voit à quel point il soutient une politique qui évite des prélèvements trop importants sur les riches par le biais des trihiérarchies ou par le biais de l'impôt sur la guerre. Et en même temps, on a l'impression que comme il veut avoir l'appui du peuple, un peuple qui, dans sa globalité, est plutôt modeste, eh bien, il essaie de se faire passer pour quelqu'un qui combat les riches. C'est assez étonnant. Il y a là une part de contradiction dans son propos, mais
on pourrait trouver quelques exemples contemporains, mais chacun remplira les blancs.
Chacun remplira les blancs, en effet, oui.
Alors, ce procès contre Midias. Alors,
ce procès contre Midias est effectivement au début de sa carrière, au milieu des années 350. Midias est un ennemi intime. La démocratie athénienne contrairement à ce que dit Périclès dans son oraison de 431, où il dit que à Athènes, tout le monde est uni et tout, en réalité, tout corps, toute communauté est traversée par des problèmes, je dirais, familiaux.
Certains pensent d'ailleurs que l'amitié personnelle ne peut guère survivre à la concurrence politique.
J'en sais quelque chose en termes, pour avoir été président d'université, j'en sais quelque chose. Et de ce point de vue-là, donc Midias était un ennemi intime de Démosthène. Il était probablement lié à ses tuteurs qu'il avait spoliés, comme je disais précédemment. Dans des circonstances que nous ne connaissons pas bien, Midias aurait frappé Démosthène, qui était porteur de couronne, puisqu'il faisait des sacrifices au nom de la cité, et Démosthène a porté plainte contre
Midias. Frappé physiquement ?
Ah, frappé physiquement, oui. Ça a été, ah oui, un coup de poing, oui, c'est un bon coup de poing. Démosthène a voulu donc la mort de Midias, a demandé la mort de Midias.
Pour un coup de poing, c'est dur.
Pour un coup de poing, c'est dur. Mais parce qu'il dit, ce n'est pas moi qui ai été attaqué, c'est la cité, puisque je faisais le sacrifice en son nom.
Ah oui, en ma personne, etc.
Ah, en ma personne, ce n'est pas moi que l'on atteignait, enfin... Vous voyez, un petit peu, là aussi, beaucoup de parallèles contemporains peuvent être évoqués. Donc, Démosthène a porté plainte. En réalité, l'affaire s'est réglée et le discours que nous avons n'a jamais été prononcé.
Eh bien, voici pourtant un extrait du Contre-Midias de Démosthène. Il est lu ici par Daniel Mesguich dans les après-midi de France Culture, le 15 décembre 1975.
Plaidoyer politique. Contre-Midias. Ah, ne me livrez pas, moi non plus, à cet homme-là. Athéniens, voyez plutôt, tout à l'heure, quand le tribunal aura levé séance, chacun de vous rentrera chez lui, l'un d'un pas vif peut-être, l'autre plus lentement, sans s'inquiéter, sans se retourner, sans avoir peur, sans se demander si l'homme qu'il va rencontrer est un ami pour lui ou ne l'est pas, s'il est grand ou petit, s'il est vigoureux ou chétif. Sans se poser aucune de ces questions. Pourquoi donc ? Parce qu'il sait qu'au fond de lui-même, dans la ferme confiance qu'il a pour le régime, que personne ne viendra l'enlever, ni le frapper, ni lui faire violence. Alors, cette sécurité qui accompagne vos pas, pourriez-vous partir d'ici sans me l'avoir garantie ? Qu'est-ce qui prouve que je résisterai, si vous vous désintéressez de mon sort. Par Zeus, rassure-toi, dira-t-on. Tu ne seras plus outragé du tout par lui. Mais si je suis outragé, vous vous indignerez à ce moment-là, alors que vous le relâcheriez aujourd'hui ? Ah, n'en faites rien, juge. Ne trahissez pas ma cause, ni la vôtre, ni celle des lois. D'ailleurs, si vous voulez bien considérer les faits eux-mêmes, et chercher ce qui donne aux juges qui se suivent un pouvoir souverain sur toutes les choses de la cité, qu'ils soient 200 000 ou n'importe quel nombre arrêté par la loi, vous trouverez que ce n'est pas pour être seul parmi les citoyens, groupés en bataillons, ni pour être en meilleure condition physique, ou les plus jeunes en âge, mais parce que les lois sont fortes. Or, cette force des lois, en quoi consiste-t-elle ? Est-ce à dire qu'elles accourent pour assister celui d'entre vous qui, victime d'une injustice, criera à l'aide? Non. Elles ne sont qu'un texte écrit, qui ne saurait posséder un tel pouvoir. Alors, qu'est-ce qui fait leur force? Vous-même, à condition de les fortifier, ou de mettre, en toute occasion, leur puissance souveraine au service de l'homme qui les réclame. Voilà comment vous faites la force des lois, de même qu'elles font la vôtre.
C'est une vision intéressante. Encore aujourd'hui, Patrice Brunck, cette idée de la loi qui est en fait une norme en mouvement.
Même si ce discours n'a jamais été prononcé, il est fondamental et l'extrait montre à quel point les lois jouent dans la cité une importance absolument considérable. La loi est ce qui s'impose à tous. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si vous voulez, si les premières démocraties sont nées dans les cités où on a écrit la loi. La loi doit être publique, elle doit être la même pour tous, et pour cela, il faut que chacun la connaisse.
Et en même temps, il dit que leur force est accrue par l'usage qu'on en fait, et perpétuée par l'usage qu'on en
Exactement.
Fait. Exactement. Fragilité.
La parole de Démosthène s'inscrit dans ce que doit être la démocratie. La loi est faite pour tous, et donc elle doit protéger le plus faible. Alors bien entendu, se faire passer, lui, pour le plus faible. Bien entendu, il y a une force, je dirais, d'exagération très, très, très grande. Mais, je dirais, ce passage illustre un petit peu ce qu'est la cité. Et un petit peu dans ce que, le fil, droit fil de ce que je disais tout à l'heure, on voit à quel point on s'adresse au citoyen et on lui dit, vous voyez, la décision que vous allez prendre, vous allez la prendre, mais ce n'est pas uniquement pour ce cas que vous allez la prendre. C'est, en quelque sorte, pour l'ensemble de la cité. D'où l'importance de pouvoir et de vouloir convaincre son auditoire.
Plus que convaincre, persuader.
Persuader.
On faisait cette distinction.
Les Grecs avaient d'ailleurs une divinité, Peito, qui était la divinité de la persuasion.
Alors, je voudrais maintenant que nous avancions, si vous le voulez bien, pour en arriver à ce qui a fait la gloire de Démosthène, c'est-à-dire la grande affaire des relations entre Athènes et Philippe II de Macédoine, le roi qui est en pleine émergence et qui va affirmer son autorité sur les villes grecques qui ont précédé de loin, évidemment, son histoire propre.
D'ailleurs, Démosthène a mis en scène un petit peu cette opposition. Il s'est lui-même autoproclamé comme le seul adversaire de Philippe.
Philippe II, rappelez comment les choses sont passées en Macédoine, qui était jusque-là considéré avec un œil un peu condescendant par Athènes ou même par Sparte.
A diverti d'abord parce que c'est une monarchie, que même si les Grecs connaissaient le principe monarchique, hein, l'Iliade et l'Odyssée se déroulent dans un monde de souverains, de monarques, la Macédoine, pour diverses raisons, paraissait un endroit un peu reculé. D'abord, je dirais géographiquement, au nord, au nord-est de l'Égée, et puis également un peu culturellement. Il ne faut pas exagérer ce recul culturel, parce que Euripide, par exemple, à la fin de sa vie, est allé chez le roi de Macédoine. On n'imagine pas que Euripide serait allé, il a composé ses dernières pièces à la cour de Pella, la cour du roi de Macédoine.
À peu près comme les philosophes chez Frédéric II ou chez Catherine de Russie.
Exactement, oui. Donc ce qui indique quand même qu'il y avait une véritable vie culturelle, donc grecque, à la cour du roi de Macédoine.
Euripide, c'est quand Euripide en Macédoine?
C'est la fin du 5e siècle, dans les années 410-405.
Donc longtemps avant les moments que nous évoquons.
Exactement, mais tout ça pour dire que la Macédoine était évidemment intégrée dans la civilisation grecque. Le problème, c'est que la Macédoine avait connu, dans la première moitié du IVe siècle, des intrigues de cour, beaucoup de guerres contre les peuples barbares venus du nord, et les rois se sont succédés à une très très grande allure. Philippe II arrive d'ailleurs au pouvoir comme régent, et non pas comme roi, et il élimine son neveu qui aurait dû régner. Donc, à partir de 359, Philippe a souhaité consolider les frontières au nord, et petit à petit a voulu s'agrandir la Macédoine, d'abord retrouver une certaine indépendance de la Macédoine, parce que la Macédoine était affaiblie et elle était sous la domination thébaine dans les années qui précèdent son arrivée. Petit à petit, on voit que toutes les villes, les cités grecques qui sont sur le littoral macédonien sont prises même, je dirais, d'assaut par Philippe de Macédoine. Et ainsi, très vite, à partir de 357, deux ans après son arrivée sur le trône, il entre en conflit avec Athènes, puisqu'Athènes avait des alliés dans cette région-là. Donc c'est à partir de là, si vous voulez, que entre 20 années de la vie de Philippe et de la vie de l'histoire grecque, est un conflit plus ou moins larvé, plus ou moins direct, entre d'un côté les Macédoniens et d'autre côté les Athéniens. Et c'est de ce conflit de 20 ans que Démosthène a voulu faire une lutte personnelle contre Philippe II de Macédoine.
Philippe II qui finalement triomphe.
Philippe II qui triomphe. Triomphe, je dirais, pratiquement sur toute la ligne. Puisque, à la bataille de Chéronée en 338, les Athéniens, aidés de quelques cités, comme par exemple les Thébains, sont battus très nettement par les troupes de Philippe. Troupes de Philippe auxquelles d'ailleurs participe Alexandre, le jeune Alexandre, qui à ce moment-là n'a que 18 ans et qui commande déjà la cavalerie.
Philippe l'emporte et par conséquent, ceux qui veulent tenir bon, ceux qui incarnent la résistance, en tout cas après coup, autour de Démosthène sont défaits. Du côté de ceux qui souhaitent des compromis, on s'aperçoit qu'il y a des courants assez variés, c'est intéressant. Il y a d'abord évidemment ceux qui peuvent être tout simplement passés au service de Philippe, stipendiés, mais ce n'est probablement pas la majorité. Et puis il y a les panhellénistes, comme on a dit, autour d'Isocrate, que nous avons déjà vu. Et puis ceux qui sont pacifistes, la paix est toujours préférable à la guerre. Mais le second courant est intéressant parce qu'il évoque un peu, au fond, sans excès, je crois, d'efforts pour la concordance, il évoque tous ceux qui ont pensé vers 1941, 42, 43 que l'Allemagne permettrait de faire une nouvelle Europe. Est-ce que ce rapprochement vous paraît indu ou forcé?
Forcé peut-être à certains égards, surtout si on veut faire entrer en quelque sorte l'histoire ancienne dans le tube de l'histoire contemporaine.
C'est à quoi nous nous employons ici.
Oui, mais il ne faut pas trop forcer, si vous voulez, en quelque sorte.
C'est ce que nous vérifions ici aussi.
parce que, par exemple, parmi ceux qui ont cherché des compromis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Démosthène. Démosthène qui se présente toujours comme l'ennemi juré de Philippe, mais qui, en 346 et 346, a fait partie de ceux qui ont accepté une première paix avec Philippe. Donc l'idée que Démosthène a été toujours opposé à Philippe est une construction de Démosthène, mais qui ne résiste pas à ce que nous savons de la réalité. Donc si vous voulez, d'un côté, qu'il y aurait d'un côté les résistants et de l'autre côté les traîtres, effectivement, ça nous rappelle trop une histoire contemporaine. Il y a, juré, tout un éventail. Comme vous l'avez dit, il y en a pour qui l'idée panhellénique est très importante. Et Isocrate est tout à fait dans cette optique. Isocrate qui cherche absolument l'union des Grecs pour aller combattre les Perses. On voit très bien qu'à partir de 346, pour Isocrate, Philippe est celui qui va diriger les Grecs vers l'Asie mineure pour vaincre les Perses.
Alors que Démosthène pense qu'il faut s'allier aux Perses, au contraire.
À un moment, effectivement, Démosthène a dit, mais il n'a pas toujours dit. Il a dit dans un premier temps que la Perse était l'ennemi juré des Grecs. Et ensuite, il trouve que c'est plutôt Philippe et que par conséquent, il faut s'allier aux Perses. Comme tout homme politique, Démosthène a eu des sincérités successives.
Tout un politique, oui.
Exactement. Je pense que de ce point de vue-là, il ne fait pas
exception.
Et c'est peut-être aussi, à certains égards, ce qui nous rend si proches, d'une certaine manière.
Mais sa gloire est tout de même d'avoir prononcé les philippiques, c'est-à-dire les discours contre Philippe. Et c'est là peut-être que se concentre le plus fortement sa renommée. Alors un extrait de la troisième philippique. Elle est lue ici par Jean-Pierre Leroux. J'emprunte cette lecture à nos amis des Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff, le 18 décembre 1995.
Il est vrai qu'on entend tenir des propos naïfs par ceux qui veulent nous rassurer. On nous dit que Philippe n'est pas encore aussi redoutable que l'étaient autrefois les Lacédémoniens, quand ils dominaient sur mer et sur toute la Grèce, quand ils avaient le roi pour allié et que rien ne leur résistait. Et pourtant, ajoute-t-on, la cité leur a tenu tête. Elle n'a pas été emportée par l'orage, sans doute. Mais ne voyons-nous pas combien presque tout a progressé, combien le présent ressemble peu au passé et que, néanmoins, c'est dans la guerre, à mon avis, qu'il y a eu le plus de changements et de progrès. D'abord, il paraît qu'en ce temps-là, les Lacédémoniens, comme tous les autres Grecs, n'envahissaient un pays que pendant 4 ou 5 mois dans la belle saison et qu'après l'avoir dévasté avec leurs hoplites et des armées de citoyens, ils rentraient chez eux. De plus, ils avaient à tel point les sentiments du vieux temps, ou plutôt l'esprit civique, qu'ils n'achetaient aucun service à personne. Ils faisaient la guerre loyalement et ouvertement. Aujourd'hui, vous le voyez, ce sont les traîtres qui ont presque tout ruiné. Ni les armées en ligne, ni les batailles n'ont rien fait. Quand vous apprenez que Philippe se porte ici ou là, selon qu'il lui plaît, ce n'est pas en y menant une phalange d'hoplites, non. Troupes légères, cavalerie, archers, mercenaires, tel est le genre d'armée qui le suit partout. Et quand, en outre, il tombe sur un peuple travaillé par un mal intérieur et que nul n'ose sortir des murs pour la défense du pays, tant il y règne de défiance, il dresse ses machines et investit la ville. Inutile d'ajouter qu'il ne fait aucune différence entre l'hiver et l'été et qu'il n'y a pas pour lui de saison réservée où il suspende ses opérations. Voilà ce que personne ne doit ignorer ni méconnaître. Et dès lors, il ne faut à aucun prix laisser venir la guerre jusque chez nous. Ne regardez pas en arrière vers le bon vieux temps où l'on se battait contre les Lacédémoniens et n'allez pas vous faire ainsi désarçonner, non. D'aussi loin que possible, prévenez l'attaque par votre activité et vos préparatifs. Faites en sorte qu'il ne puisse bouger de chez lui pour n'avoir pas à lutter contre lui corps à corps. Car pour mener la guerre, nous avons beaucoup d'avantages naturels, Athéniens, si nous nous décidons à faire ce qu'il faut. Et d'abord, la conformation même de son pays, dont une grande partie peut être mise au pillage, sans parler de beaucoup d'autres.
Voilà, Patrice Brun, la proposition d'une stratégie qui se défend d'être imitatrice.
Ce passage est un des plus célèbres des philippiques, et il est un mélange de vérité, d'exagération, de déformation et de mensonge.
Alors dites-nous.
La vérité, c'est que, effectivement, il nous dit la guerre n'est plus comme avant, ne se fait plus comme avant. Mais là où il y a de la déformation et du mensonge, c'est de laisser croire que c'est Philippe de Macédoine qui a créé cela. En réalité, la guerre a commencé de changer durant la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire dans la dernière décennie du 5e siècle. C'est-à-dire que lorsqu'il parle du bon vieux temps, c'est quand même assez étonnant d'entendre le bon vieux temps où l'on faisait la guerre quand même. C'est vrai que ça nous étonne un peu dans notre civilisation actuelle. Il y a une idéalisation du passé qui est tout à fait intéressante.
Classique, on en parlait tout à l'heure.
Mais voilà, l'idéalisation du passé qui est là aussi pour mettre en phase et en forme les difficultés du présent. Et en même temps, il y a de la vérité là parce que Philippe a apporté du nouveau aussi dans la guerre, on l'a dit à un moment, les machines de siège. Ce sont des choses qui effectivement qui existaient avant. Hein. Ils existent dès la fin du 5e, début du 4e siècle. Mais sur leur échelle, Philippe les a mis à un niveau très important. Et beaucoup de villes ont été prises par Philippe par l'existence de ces tours mobiles que l'on dressait et qui permettaient d'envoyer des traits depuis une tour située au-dessus des remparts. Et là, c'est vrai que c'est une très grande nouveauté. La question que pose aussi Démosthène, c'est de dire « nous ne faisons rien, il faut faire ». Et là aussi, il y a beaucoup d'exagération parce que les Athéniens ont beaucoup fait. Le problème, c'est que les Athéniens ne pouvaient pas, comme ils l'ont fait au 5e siècle, lutter sur plusieurs fronts à la fois. Au moment de la lutte entre Athènes et la Macédoine, les Athéniens, il serait faux de croire que les Athéniens sont préoccupés exclusivement par les problèmes du Nord. Non, il y a aussi des problèmes dans le sud-est de la mer Égée, lorsque les Athéniens se sont pris par l'émergence du satrape de Carimozole. Ils sont également pris par des problèmes dans les détroits, pris également avec leurs voisins, comme par exemple l'île de Bé, qui est essentielle pour le ravitaillement en blé. Donc en fait, quand Démosthène dit « nous ne faisons rien », eh bien les Athéniens ont essayé de faire, mais ils n'avaient plus la puissance financière ni la puissance humaine pour être ce que Démosthène aurait voulu qu'ils fussent, c'est-à-dire les premiers, les hégémones, comme on dit, du monde grec. Et c'est là un petit peu la grande difficulté qu'il y a d'Athènes vis-à-vis de Démosthène, cette incapacité à être sur plusieurs fronts à la fois.
Elle enseigne que tout cela s'est terminé par la victoire du roi de Macédoine, Philippe, puis d'Alexandre, et par la mort de Démosthène, encore un moment qui est entouré de beaucoup de légendes.
On ne sait pas trop, mais effectivement, il y a une mort qui, d'après les sources, est assez théâtralisée. Il se réfugie dans un sanctuaire de Poséidon.
Après la victoire du Diadoque, successeur d'Alexandre.
Voilà, 322, c'est-à-dire qu'il y a eu la bataille de Chéronée en 338, il y a l'expédition d'Alexandre, et à la mort d'Alexandre, un certain nombre de cités se soulèvent, dont Athènes. Ce soulèvement échoue. Et les Macédoniens, cette fois, s'installent à Athènes et exigent la reddition de tous les orateurs hostiles à la Macédoine, dont Démosthène.
Il s'enfuit.
Démosthène s'enfuit. Il est rattrapé dans un îlot à Calorie, non loin d'Épidaure. Et il se réfugie dans le temple de Poséidon. Et c'est là qu'il se serait suicidé, parce que, un petit peu comme d'autres au moment de certains procès, il avait prévu un poison qu'il aurait amené avec lui. On est tenu à cette seule version. Elle est peut-être vraie, elle est peut-être fausse. De toute façon, ça ne change rien au fait que Démosthène a été éliminé physiquement par les Macédoniens en 322.
Une mort de toute façon assez noble.
Et oui, et qui d'une certaine manière a parachevé en quelque sorte l'auréole qu'un certain nombre d'historiens ont pu lui tresser après, parce qu'effectivement, c'est un proverbe grec qui disait que toute vie se juge à sa fin. C'est une chose très importante, la mort d'un individu, mais ce n'est pas spécifique au monde antique, la mort de l'individu a une importance absolument considérable sur sa destinée historique.
Plutarque, qui au total est assez positif dans cette belle vie de Démosthène, qui d'ailleurs est accessible commodément dans la réédition des œuvres de Plutarque, la collection Quarto chez Gallimard, ou dans la collection Budet, on peut lire à la fois en grec et en français, ce qui est utile naturellement. Plutarque est sévère sur deux points. La lâcheté prétendue, manque de courage physique de Démosthène, et puis surtout sa vénalité. Il n'était pas capable de résister suffisamment à la concussion. Peut-être faut-il en dire un mot quant à la légende du personnage.
les deux s'appuient sur des réalités bien différentes. D'abord, la lâcheté, à vrai dire, nous ne savons pas grand-chose. Ce que nous savons, c'est que Démosthène n'a pas beaucoup fait la guerre. Ça, c'est indiscutable. Il a été triérarque, c'est-à-dire qu'il a commandé une trière, mais on ne sache pas qu'il ait participé à une bataille navale. Et il a participé, par contre, à la bataille funeste pour les Athéniens de Chéronée en 338. Il a fui, mais il a fui, il n'a pas été le seul à fuir, quoi. Je veux dire, il en a fui comme d'autres. Certains ont évoqué, je dirais, sa lâcheté à ce moment-là. D'autres ont été faits prisonniers, d'autres sont morts au combat. Et ce qui est assez évident, c'est que s'il a pris la fuite, c'est que, comme il était relativement âgé à ce moment-là, il avait près de 50 ans, il n'était pas placé en première ligne. C'était le plus jeune qui était placé en première ligne. Et donc, effectivement, il a peut-être été entraîné par la fuite des autres.
Eh bien, médisance, écrit Clémenceau, naturellement, qu'il adore. Comme il dit, médisance à propos de sa faiblesse prétendue envers les tentations de l'argent. Alors, parlons quand même de cette affaire d'Arpale. Parce que chez Clémenceau, évidemment, il y a implicitement un rapprochement avec l'affaire de Panama, où lui-même a été accusé d'avoir accepté de l'argent secret, de l'argent caché, d'avoir été par conséquent malhonnête, chose qui historiquement est évidemment controuvée, mais qui forcément pour le Tigre appelait un rapprochement.
Rappelons d'abord que Arpale était l'un des trésoriers, un trésorier d'Alexandre.
C'est un métier toujours dangereux de trésorier.
Oui, et surtout beaucoup, plein de tentations. Il serait
dangereux de ce fait, notamment, mais pas seulement.
Voilà, les tentations sont très très grandes. Et il serait parti au moment où Alexandre revient. On dit qu'il va revenir vers l'ouest. Arpale, sentant un peu le danger, s'en va et il part avec énormément d'argent. On parle de plus de 6000 talents d'argent, ce qui correspond à un talent étant égal à 26 kilos d'argent. Vous imaginez un petit peu la quantité.
J'imagine mal, mais je vous suis.
Voilà, on a beaucoup de difficultés à imaginer. En tout cas, ce sont des tonnes d'argent monnayé qu'il amène avec lui. Et il se réfugie, où se réfugie-t-il ? Eh bien, à Athènes, parce que Athènes est réputée être hostile aux Macédoniens.
Mais alors ?
Et c'est là que pour Démosthène, il y a un vrai problème, c'est que Arpale, apparemment, pour essayer d'assurer sa sécurité et sa fuite future, a sans doute donné de l'argent. Pas qu'à Démosthène. Notre homme politique Démade a été également accusé. Il est indiscutable qu'entre le moment où on a comptabilisé l'entrée de l'argent à Athènes et le moment où Arpale s'en va, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui est parti et Démosthène en a certainement pris. Nous ne le saurons jamais, évidemment, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a même été condamnée par l'aréopage et donc chacun doit faire confiance dans la justice de son pays. C'est pas.
Et tumulte de calomnie, s'écrit Clémenceau.
Non, il a été jugé par l'aréopage, ce qui était quand même le tribunal suprême à Athènes. Il a donc effectivement pris de l'argent. Un certain nombre d'historiens favorables à Démosthène ont pensé, ont affirmé, ont voulu se persuader, comme on dirait maintenant, qu'il avait récupéré cet argent pour le bien de la cité et pour lever une armée. On ne le saura évidemment jamais, mais ce qui est tout à fait clair, c'est cette accusation de vénalité repose sur une réalité judiciaire qui est sa condamnation par l'aréopage.
Bien, alors on s'en tient là à cet égard, tout en notant que la défense que l'on propose est durable dans ce cas-là, c'est-à-dire que ce n'était pas pour moi, c'était pour l'intérêt de mon camp et plus largement l'intérêt de la patrie.
Exactement. Démosthène est au début d'une longue chaîne d'une telle argumentation.
Qui parfois peut être tout à fait légitime, mais enfin, on laisse la question ouverte. Et je voudrais que nous en venions maintenant, Patrice Brun, à la postérité de Démosthène. Car au fond, après l'avoir décrit tel que nous pouvons le voir, le comprendre aujourd'hui, on n'est pas surpris de s'apercevoir qu'il a été considéré, jugé de façon très variable de siècle en siècle. Et c'est toujours intéressant de voir comment un personnage évolue en quelque sorte post-mortem, sans naturellement y pouvoir lui-même grand-chose.
Indiscutablement, Démosthène a été l'un des personnages les plus étudiés par l'historiographie. Et c'est celui aussi pour lequel les jugements sont les plus tranchés, voire les plus contradictoires. Pourquoi ? Sans doute parce que chaque époque, peut-être même chaque pays, a eu son image de Démosthène. Et que Démosthène, dans ses propos, a été d'une dureté très forte avec ses adversaires, qu'il a traités de traîtres en permanence. Il a été d'une discrétion absolue vis-à-vis de ses amis, faisant croire que lui seul était aux commandes d'une sorte de parti anti-macédonien. Et donc, je dirais, d'une certaine manière, ces accusations on finit par se retourner un petit peu contre lui. Cela dit, chacun a pris dans la vie de Démosthène ce qui correspondait à son idée du présent. Et c'est vrai qu'il n'est peut-être pas d'homme politique de la Grèce antique qui ait subi à ce point l'assaut de l'actualisme.
Le XVIIIe siècle est le premier siècle où en fait son œuvre est répandue. C'est le moment où elle est pour la première fois traduite en français, de façon intégrale en tout cas.
Absolument. Et le premier à vraiment en parler, c'est Montesquieu. Montesquieu qui évoque en termes très élogieux cette lutte contre la décadence qu'il retrouve dans ses textes. Il illustre un petit peu, je dirais, la première salve de l'historiographie française en faveur de Démosthène.
D'ailleurs, il écrit qu'on craignait Philippe non pas comme l'ennemi de la liberté, mais des plaisirs. Quand Philippe osa dominer dans la Grèce, dit Montesquieu, quand il parut aux portes d'Athènes, elle n'avait encore perdu que le temps. On peut voir dans Démosthène quelle peine il fallut pour la réveiller.
Oui, c'est une vision, mais qui s'inscrit dans la première vision libérale, au sens politique 18e, 19e siècle du terme, où on voit très bien que Démosthène illustre la défense, en quelque sorte, pas de la démocratie pour Démosthène, mais d'une forme d'indépendance et de liberté face à un potentat de nature despotique. Et là, il est tout à fait évident que son analyse, que l'on peut voir dans l'esprit des lois par exemple, corrobore en quelque sorte cette image positive de Démosthène. Et Démosthène est utilisé justement contre une vision trop monarchique dans l'exercice solitaire du pouvoir.
D'ailleurs, Robespierre aime beaucoup Démosthène et pleure son échec. Il s'écrit dans son discours du 18 Pluviose en deux, et vous avez traduit immédiatement 5 février 1794, Robespierre s'écrit « Démosthène a beau tonner contre Philippe, Philippe trouve dans les vices d'Athènes dégénérées, des avocats plus éloquents que Démosthène. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. » Et Démosthène incarna cela.
Il faut bien dire à quel point la Révolution française a utilisé l'histoire ancienne dans les assauts à la tribune. C'est tout à fait intéressant, d'ailleurs, au moment du bicentenaire. Il y a eu beaucoup d'écrits sur la Révolution française et l'Antiquité, autour de Pierre Vidal-Naquet, par exemple. On voit à quel point Athènes, mais à la limite, c'est surtout Sparte qui était utilisé. Sparte,
ça dépendait
idéalisé,
des camps.
Ça dépendait des camps. Mais c'est vrai que, par exemple, un Danton, par exemple, était beaucoup plus, je dirais, attiré par Athènes que par Sparte.
D'ailleurs, un député était obligé à un moment donné de s'écrier. Mais enfin, monsieur, l'histoire n'est pas notre code.
Voilà.
La Troisième République continue de valoriser, comme nos manuels pour ma génération, de valoriser Démosthène comme l'incarnation de la résistance, du courage, parfois contre le peuple lui-même qui ne le soutient pas, en face des menaces extérieures. Le patriotisme incarné et démocratique.
En fait, ça commence avec Victor Duruy, qui est ministre de l'Instruction publique à l'époque de Napoléon III, qui, dans son histoire grecque, étudie donc le personnage de Démosthène et lui donne en quelque sorte les contours que la Troisième République va utiliser ensuite. La Troisième République utilise, je dirais, cette figure de Démosthène dans un esprit de conquête, voire même de reconquête, contre l'Empire allemand. Parce qu'alors là, à partir de la Troisième République, Démosthène est la figure de la démocratie parlementaire face à la monarchie macédonienne et donc la monarchie allemande.
D'ailleurs mal vu du côté allemand par plusieurs historiens qui expliquent que Philippe c'est Bismarck et que c'est un grand homme.
Exactement, et c'est là ce que je disais tout à l'heure, à quel point la figure Démosthène est utilisée, je dirais même caricaturée, dans un sens comme dans l'autre. Parce que dans un sens, Démosthène est vu comme celui qui se bat pour la liberté, et en même temps, du côté allemand, on a Ulrich Karstedt, par exemple, qui écrit en 1910 une histoire grecque qui, de ce point de vue-là, je dirais, est un monument, où, au contraire, Démosthène est présenté non seulement comme quelqu'un qui aime l'argent, qui est allié aux Perses contre les Grecs, et qui ne comprend pas qu'il faut se battre pour, avant tout, l'unité de la Grèce. Évidemment, l'unité allemande, l'unité de la Grèce, tout cela est parfaitement lisible pour les lecteurs de l'époque.
Mais alors pour finir, je voudrais que nous revenions sur Démosthène et son éloquence, car au fond, les curiosités contemporaines sont braquées maintenant plutôt sur sa manière de haranguer, de toucher le peuple par sa parole, plutôt que sur ses positions politiques. Écoutez donc ces observations sur la rhétorique contemporaine et sur son évolution, rapprochée de l'histoire de Démosthène, des réflexions de Régis Debray. 28 avril 2002, dans le cercle des médiologues sur France Culture.
C'est ce qui fait qu'une parole ait un effet sur un public. Comment s'opère l'action de l'homme sur l'homme, si vous voulez? Bon, ça, c'est la première réponse. Le meneur d'homme est un orateur, qu'il soit messie, chef ou tête de file. Le meneur d'homme est un rhéteur ou un sophiste. Et d'ailleurs, qui prend la parole prend le pouvoir. Et qui perd la parole perd le pouvoir. Rendez-moi la parole, président d'assassin, n'est-ce pas? Dit Robespierre, le neuf Thermidor. Et puis, il y a une deuxième réponse. C'est que tout ce que les philosophes snobent ou jettent au panier, les médiologues lui font fête. Et la philosophie s'est moquée de l'éloquence, comme Platon des premiers sophistes. L'éloquence, si vous voulez, c'est le logos attrapé par la politique, un peu comme M. Le Troidec saisi par la débauche. C'est-à-dire que l'homme éloquent, c'est quelqu'un qui, au lieu de réfléchir sur l'être ou sur la nature, en tournant le dos à l'opinion, de façon désintéressée, c'est quelqu'un qui va choisir d'être un homme d'action, c'est-à-dire un manipulateur, un emberlificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à retourner une assemblée, à persuader des juges, bref, à avoir un impact. Or, la philosophie soumet le discours à l'instance de la vérité, l'éloquence soumet le discours à l'instance de l'efficacité. Et bien ça, c'est justement la démocratie. Dans le despotisme, un seul parle et tout le reste est silence. Un despote n'a pas besoin de la médiation de la parole. Les valeurs de la République passent par la parole. Crise de la République, crise de l'éloquence. Dépolitisation égale privatisation du discours, désaffection de l'espace public. C'est un paradoxe étonnant. C'est-à-dire que dans une société où chacun a en quelque sorte l'obligation de s'exprimer, un micro à disposition. Chacun doit communiquer à tout prix. On s'exprime de moins en moins par la parole, on s'exprime par le geste, par la danse, par le sport, dans l'espace, mais aussi par le bruit, par la musique, par la radio, par le haut-parleur, avec une formidable dégradation de la langue, en sorte que le grand tribun parlementaire, eh bien, ça nous fait penser au point sonneur des lilas, au bus à plateforme ou aux nappes à carreaux rouges et blancs, c'est-à-dire une époque révolue.
On doit rappeler d'abord, Patrice Brun, que Monsieur le Troidec saisi par la débauche est une pièce fameuse de Jules Romain. Mais pour ce qui touche à notre sujet, au fond, voilà Démosthène investi plus que jamais par la nostalgie. Il aurait été actuel au moment des grandes éloquences de la tribune, de la chaire et du barreau. Et puis le temps actuel, selon Régis Debray, le rendrait, hélas, à ses yeux, désuet.
Et il faut dire à quel point, d'ailleurs, ces paroles de Régis Debray s'insèrent parfaitement dans ce qu'est la démocratie athénienne. Une démocratie de la parole, une démocratie, de l'art de convaincre. Même si Démosthène n'a pas été le seul. Il veut montrer qu'il est seul, en réalité. Il y a d'autres orateurs aussi puissants que lui. Des gens comme Hyperide, par exemple, qui avait, paraît-il, une voix magnifique.
D'ailleurs, finalement, je crois qu'on lui a trouvé la langue.
On lui a arraché la langue.
C'est l'inconvénient d'être trop éloquent.
Et surtout d'être trop anti-macédonien, car lui, il l'a été de tout temps. Cette vision, si vous voulez, de la nécessité de la parole pour qu'il y ait régime démocratique, on le voit parfaitement, puisque nos derniers discours de la rhétorique athénienne s'arrêtent précisément le jour où la démocratie, en 322, est abolie à Athènes.
Ça, c'est ce que dit Debray. Effectivement, le pouvoir central n'a que faire de l'éloquence.
Et c'est aussi une des raisons, d'ailleurs, puisqu'on reparle un peu là d'historiographie, pour lesquelles un ennemi juré de la démocratie athénienne, un philologue allemand qui s'appelait Engelbert Trerup, a écrit un ouvrage en 1916, pleine guerre. Alors, il disait lui-même que c'était un Kriegsbuch. On sait vous dire à quel point un livre de guerre. À quel point il a écrit un ouvrage qui s'appelle Aus einer Advokatenrepublik. À propos d'une république d'avocats, où il montre à quel point Athènes est une cité faible, précisément parce qu'elle laisse la parole
au rhéteur,
elle laisse une parole libre. Et il est tout à fait évident qu'il est, lui, dans une vision d'une monarchie où, comme le dit le texte de Régis Debray, la parole est détenue par un seul. Et là, on a, d'une certaine manière, je dirais, un lien très direct entre l'Antiquité et ce texte de Régis Debray. On voit très bien à quel point la démocratie est d'abord l'éloge de la parole.
C'est pourquoi on peut, à la fin de cette conversation sur Démosthène aujourd'hui, Patrice Brun souhaiter qu'il ne devienne pas obsolète et qu'il reste présent dans notre mémoire et peut-être dans l'ensemble de notre considération.
Démosthène restera toujours au centre de nos réflexions parce qu'il a évoqué des thèmes qui sont quasiment éternels. dans une démocratie. Et justement, s'il est un peu désuet, c'est peut-être pour des raisons, je dirais, d'une rhétorique dont on ne connaît pas bien, je dirais, les contours. Hein. On ne le connaît que par, je dirais, la forme écrite. On n'a pas cette puissance qu'il pouvait y avoir. Mais aussi parce que s'il nous paraît désuet, c'est parce qu'il fait appel à des ressorts qui ne nous disent plus grand-chose. L'appel aux armes, l'appel au drapeau est une chose que nous avons beaucoup de difficultés à intégrer maintenant et que la génération qui est née après la guerre, qui sait vers quoi nous entraînent ces propos guerriers, font que la vision que nous avons de Démosthène nous paraît effectivement désuète.
Contenue désuète, au moins provisoirement.
À certains égards, à certains égards, en tout cas dangereuse. Et ça, dangereuse, elle le restera tout le temps.
Merci, cette conclusion me paraît parfaitement adéquate au propos de cette émission. Merci beaucoup, Patrice Brun. Vous préparez une biographie de Démosthène qui paraîtra dans quelques mois chez Armand Collin. On tâchera de patienter jusqu'à cette édition. Je voudrais évoquer deux autres biographies qui ont été importantes, qui le sont toujours, celle de Pierre Carlier, Démosthène, chez Fayard, toujours disponible, paru en 1990. Et l'excellent travail aussi de Claude Mossé, Démosthène ou les ambiguïtés de la politique, paru chez Armand Collin en 1994. Elle replace, n'est-ce pas, plus que beaucoup de ses devanciers, Démosthène dans les complexités de la vie politique de son temps.
Exactement, et avec une vision, je dirais, qui est un peu dégagée quand même, d'une vision un peu rose d'un démocrate convaincu et qui aurait eu une seule ligne durant toute sa vie. Et c'est ce qui fait, je dirais, l'intérêt de cette biographie.
Et puis, assez loin de Démosthène, encore que je ne sais pas, je signale que vous venez de publier, Patrice Brun, la chronique de votre présidence d'université, l'université de Bordeaux-Montaigne, entre 2009 et 2013. Ça s'intitule « De la renonciation comme acte politique ». Et l'éditeur est le bord de l'eau. Vous ne connaissez pas d'ailleurs de livre de ce type depuis celui de René Raymond, consacré à son expérience de Nanterre au début des années 70, sous le titre « La règle et le consentement ». Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Eh bien, à partir du moment où j'ai décidé de ne pas me représenter pour un second mandat, ça n'a pas été sans difficulté. Parce qu'abandonner le pouvoir, vous en savez quelque chose, et plus que moi encore.
Charles Quint déjà l'avait éprouvé.
Oui, mais je n'ai pas cette ambition-là, si vous voulez. Mais à la fin, j'évoque la figure mythique de Cincinnatus, le dictateur qui est revenu à sa charrue.
6 mois seulement, pas 5.
Ça a été un moyen pour moi d'une sorte de catharsis.
On parle grec, décidément.
Voilà, on parle grec, mais le grec nous envahit, nous entoure. Enfin, en tout cas, moi, m'entoure. Ça m'a permis, si vous voulez, de mettre en place un certain nombre de choses que j'avais faites, que je n'avais pas faites, mais ça m'a permis de passer à autre chose et de revenir à mon métier d'origine, qui est celui de l'enseignement et de la recherche.
De la renonciation comme acte politique. Merci beaucoup, merci. Vous pourrez, chers auditeurs, trouver une bibliographie plus complète encore sur notre site, avec les références des documents que nous avons utilisés. Et vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter et télécharger cette émission afin de l'installer au cœur de votre bibliothèque personnelle. Samedi prochain, nous parlerons de l'Algérie, mais pas celle de la guerre d'Algérie. L'Algérie depuis 1962, en nous demandant à l'occasion de la réélection attendue du président Bouteflika, si après 50 ans, le FLN est à bout de souffle. Et mon invité sera Benjamin Stora. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Naël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec le concours aussi de Nathalie Lempereur, une émission réalisée comme chaque semaine par Patrick Molinier, avec Tahar Bouklifa à la prise de son et Gwen Michel pour les Archivina. Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Dominique Rousset pour l'économie en question.